près de Mbujimayi au Kasai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de partager ces 57 minutes interactives avec nous dans ce dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Le dossier de la pollution à Moanda par l'entreprise pétrolière Perenco a fait l'objet d'une question orale au Sénat. Après débat, il a été convenu que les fonds de cette pollution qui s'élève à 88 millions de dollars doivent être transférés à la Banque centrale pour une gestion efficiente dans la dépollution de la cité, mais aussi dans les actions sociales en faveur des populations. Cette recommandation relance donc dans cette émission le débat sur la gestion de la pollution à travers le pays. Quelle est la situation chez vous et quel regard avez-vous sur cette recommandation du Sénat? Rejoignez-nous à l'adresse ba@radiocapi.net pour votre intervention également en direct. Appelez-nous au 081 890 49 69 ou encore au 081 890 43 39. Merci à Titi Koutou pour la réalisation de cette émission aux côtés de Nadine Foula. Une émission mise en onde par Jean-Noël Mokondo. J.R. Ngembo a le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Nikon Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Ngembo.
Merci à vous tous qui nous avez déposé vos messages sur notre page Facebook. Guy Kondiro, Émile, vous dites qu'il faut une surveillance efficace pour permettre à ce que la gestion de pollution soit très très efficace. Prince Katumbwe dit ceci, 88 millions de dollars doivent être bien gérés pour que cela n'entre pas dans les poches des gens. Voilà, j'ai été à Moanda, vous y arrivez à l'océan, vous sentez l'odeur du pétrole, même le poisson sent le pétrole et c'est dangereux. Bravo au Sénat pour avoir donner cette recommandation. Fabrice Tchabouila, bonne décision de la part du Sénat, mais je pense qu'il faut créer un comité de suivi qui pourrait faire le suivi de ces dossiers, comme aussi pour tant d'autres secteurs, notamment les mines. Merci beaucoup Guy Koury, Prince et Fabrice. Nous prenons Eddy qui est à Lubumbashi, le premier auditeur. Eddy, vous êtes avec nous. Bonjour Eddy.
Monsieur Gilles.
Voilà, Eddy, vous ouvrez les débats du jour. Quelle est la situation chez vous et quel regard avez-vous sur cette recommandation du Sénat?
Bon, moi je suis ici à Lubumbashi. Je vous dis, la situation est aussi catastrophique. Dans notre commune, la commune de Kampemba, il y a un canal qu'on appelle canal Nadjundo. Ce canal est pollué par les miniers. Au lieu de déverser leur, je ne sais pas, ce qu'ils ont à déverser dans un endroit approprié, ils déversent ça dans le canal Nadjundo. Et tous ceux-là qui vivent à 200-300 mètres de ce canal, vers le soir souvent, à partir de 17 heures, ce canal dégage une très mauvaise odeur. Certainement, cela a des conséquences sur la santé de tous ceux-là qui vivent le long de ce canal-là. En tout cas, moi, je peux vous dire la vérité, moi, je suis incrédule. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une
solution. Eddy, qu'est-ce que vous constatez, vous, personnellement, chez vous, dans la gestion de la... dans la dépollution de la cité, la politique, la gestion, la manière dont les autorités locales s'emploient pour, en fait, s'engager efficacement dans la dépollution? Est-ce que la population se retrouve? Est-ce que les pollueurs et payeurs, ils payent quelque chose pour que, finalement, la communauté des bases en bénéficie?
Non. Dans notre ici à Lubumbashi, nous ne voyons rien, alors rien du tout. Donc, nos compatriotes qui travaillent au service de l'environnement, ils se font corrompre par les miniers. Nous ne voyons rien, alors rien. Il y a un camp ici, camp Tchamilemba. Vous avez déjà parlé de cela, même dans vos éditions du journal. Ce camp est pollué par une entreprise que je ne serai pas citée. Mais il y a eu des cris des habitants de ce camp. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors, rien. Nous nous posons même la question. Qui devons-nous contacter pour que cette situation prenne fin? Nous ne savons même par quelle porte frapper. Nous ne savons rien faire. Nous sommes là, nous nous regardons, et nos politiciens ne font rien. Alors nous sommes là, impuissants pratiquement.
Merci beaucoup, Eddy. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez par rapport à cette situation de pollution au niveau du canal Najumbo, Najundo, à Lubumbashi. Et vous avez cité également le cas du camp Tchamilenda. Voilà, donc notre invité pourrait peut-être nous orienter là-dessus par rapport à votre préoccupation. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Bena, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Bena.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Bena, vous avez suivi Eddy, qui a brossé pratiquement le cas de pollution observé au niveau de Lubumbashi. Quelle est la situation chez vous, là où vous vivez? Vous êtes à Kinshasa, dans quelle partie de la ville?
Je suis à Kinshasa, à la commune de Massina.
À la commune de Massina.
Oui, oui.
Alors,
la situation est la même comme dans toute la ville. Il y a les immondices que les gens essaient quand même un peu d'évacuer, moyennant quelques petites sommes dans chacune des parcelles. Mais mon intervention, c'est sur la station de Mwanda.
Oui.
Parce que je venais récemment de passer un temps là-bas et puis j'étais jusqu'en Angola, à Soyo. Le constat que je fais, c'est quoi? À part cette situation, je voudrais d'abord commencer par fixer l'opinion sur le montant et une information de votre part. Ce montant-là, c'est une estimation. Il faut maintenant que ça soit concrétisé. Mais j'ai eu la chance d'aller à Soyo où un ami m'a fait visiter la base de production pétrolière de l'Angola. Ça se trouve à Soyo. J'étais impressionné par l'équipement qu'on octroie d'abord aux visiteurs pour accéder au site. J'étais habillé de casque, donc tout le matériel qui pouvait me sécuriser physiquement. Alors lorsque je suis allé là-bas, avant, j'ai visité aussi Perenco. On parle d'abord de la pollution, mais d'abord les agents qui y travaillent ne sont pas bien équipés pour se protéger physiquement contre les rayons de pétrole. Alors la deuxième chose, c'est que au niveau de la crédibilité de la gestion, si jamais cette somme s'est concrétisée, les Congolais, vous remarquez, n'ont pas confiance à la gestion de la classe dirigeante. Il y a des détournements des fonds, il y a de à gauche, à droite. Les mégestions, la MIBA, la GECAMINE, il y a toujours de problèmes.
Mmh.
Aujourd'hui, là, ce montant-là doit être utilisé pour dédommager la population.
Oui,
d'ailleurs, ils ont construit pour éloigner la population du rayon de production. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce montant-là, une fois en mai, la population de Mwanda sera protégée?
Oui, le Sénat...
Je vous rappelle dans mon commentaire sur Facebook, je voulais parler de Tigo. Tigo, depuis 1997, autrefois appelé Oasis, n'a jamais payé sa licence d'exploitation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le gouvernement peut être si distrait ou fermer les yeux à tel point que de 1997 jusqu'à aujourd'hui, à 2013, autant d'années, et qu'on ne sache pas qu'est-ce que fait une entreprise dans son pays.
Donc, Bena, vous voulez
dire... le portefeuille est là.
Bena, donc, vous voulez dire qu'il y a des gens qui en profitent au détriment de la population, au grand dam de la population?
Exactement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays, quel est le pays au monde qui laisse une unité de production dans son pays, l'entreprise étrangère de télécommunications, les cas de Tigo. Je ne sais pas si vous êtes informé, monsieur le journaliste. Tigo n'a jamais payé sa licence d'exploitation depuis 1997, à l'époque on l'appelait Oasis. Je ne sais pas si vous avez un pays en Afrique ou en Afrique qui peut avoir une entreprise qui fait d'argent dans son pays comme ça. Il ne paye pas cette question pendant ce nombre d'années.
Donc
population est vraiment humiliée, elle n'est pas écoutée, et qu'on ne peut pas espérer que cet argent aujourd'hui, la ville de Mwanda sera protégée. Donc je ne suis pas vraiment
fait. Oui, mais le Sénat...
les faits historiques et les réalités de la population congolaise font que... C'est une émission, tout le monde va commenter, mais demain, ça sera dans les oubliés.
Oui, mais Bena, le Sénat a proposé que ce montant qui s'élève, vous l'avez dit, c'est une estimation à 88 millions de dollars, doivent être transférés à la Banque centrale pour une gestion efficiente dans la dépollution de la cité de Mwanda.
Est-ce que le Sénat existe aujourd'hui? Depuis qu'il est là, on a dit combien de montants que la MIBA et la GECAMINE, aujourd'hui avec des difficultés, à transférer à la Banque centrale. Aucun Congolais ne le fait. Nous savons que le Sénat a la bonne foi et que le Sénat peut changer les choses, mais le peuple a besoin du concret. Du concret. Parce que combien de débats sur votre chaîne, monsieur le journaliste, et après ces débats, nous ne sentons rien. Maintenant, le peuple, lui, devient méfiant et il vit comme ça.
Voilà, merci beaucoup Bena d'avoir appelé de Kinshasa. Nous restons toujours dans la même ville avec Omar qui nous a rejoint. Omar, bonjour. Voilà, Omar, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Bena, tout à l'heure, mettait un peu quelques réserves par rapport à l'utilisation de ce montant de 88 millions. Lui, il a parlé d'estimation, ce que ça pourrait être aussi au-delà de cela ou encore moins. Bon, de toutes les façons, il a des inquiétudes quant à l'utilisation de ce montant. Le Sénat a proposé que ce montant qui s'élève à 88 millions de dollars soit transféré à la Banque centrale pour une gestion efficiente dans la dépollution de la cité. Ben, alors, d'abord, la situation chez vous, Omar, vous qui êtes à Kinshasa aussi, vous observez l'environnement immédiat. Et puis, quel regard avez-vous sur cette recommandation du Sénat?
Merci beaucoup, JR. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler à tout le monde que l'article 53 de notre loi fondamentale dispose ce qui suit, que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Ça veut simplement dire, JR, que l'environnement est un cadre de vie. Lorsqu'il est pollué, la vie n'est plus possible. À Kinshasa, personne ne peut me contredire. Nous assistons à des pollutions aussi au vu des autorités étatiques. Premièrement, l'implantation des antennes cellulaires près des habitations. Si vous demandez à tout environnementaliste, il vous dira que c'est contre la loi et ça pollue l'environnement. Qui réagit? Personne. De deux, le fait pour les sociétés brassicoles de déverser les déchets dans les eaux, ça pollue l'eau, ça déverse les systèmes aquatiques. Et la solution, c'est quoi? Les conséquences des maladies diarrhéiques, les choléras et que sais-je encore. Nous avons aussi les cas de ces voitures qui polluent, qui dégagent l'oxygène en pleine rue, avec comme conséquence la pollution de l'environnement. Nous avons également la mégestion des déchets dans nos rues de Kinshasa ici. On jette les déchets partout et si vous interrogez les environnementalistes, ils vous diront un sachet peut faire 200 ans dans le sol. Personne ne gère cela et c'est chaque jour que nous assistons à des cas de pollution aussi au vu des autorités. Cela entraîne comme conséquence les maladies. Qu'est-ce que moi je peux proposer? Je salue la décision du Sénat avec les fonds qui doivent être alloués. Mais nous devons revenir à ce qui a été dit en 92 à Rio. Il y a une déclaration de Rio que notre pays a ratifiée, la déclaration de Rio de 1992. Cette déclaration a fixé quatre principes en matière de gestion environnementale. Le premier principe, vous l'avez dit hier, c'est le principe de pollueur-payeur. Tout celui qui pollue doit payer. C'est même l'article 54 de notre Constitution qui dit « Toute pollution a comme conséquence la réparation ». Mais combien de fois a-t-on assisté à des réparations? Les sociétés brassicoles sont là, elles constituent des grandes pollutions, personne ne les punit. Le deuxième principe, M. J.R., c'est le principe de prévention. L'État, qui est le principal responsable, a l'obligation de vulgariser les lois environnementales au sein des sociétés, d'expliquer aux sociétés qui veulent investir les normes environnementales et de punir tous ceux qui violent. Aussi, il y a le principe de participation. Nous aussi, membres de la société, la population et autres, nous avons également l'obligation de savoir que nous devons dégager nos eaux usées, nous ne devons pas jeter n'importe quel déchet partout. Je pense, M. J.R., à part les fonds alloués qui doivent être bien gérés, nous tous, État congolais, entrepreneurs, société congolaise, nous avons également l'obligation de protéger l'environnement, car lorsque l'environnement est malsain, la vie n'est pas possible et ce sont les maladies qui s'ensuivent.
Voilà, donc en croire vos propos, Omar, c'est comme si les principes du pollueur-payeur n'est pas du tout respecté.
Pas du tout répété. J'ai publié l'année passée avec un ami un article sur le respect des normes environnementales. Nous en avons plus de dizaines. La Constitution, le Code de 2002 sur l'environnement, la Déclaration des Rio, la Convention de Maputo, pour ne citer que cela. Mais ces textes demeurent de lettres mortes. Il a été déclaré dans toutes ces dispositions, il faut qu'il y ait un comité de suivi. Où existent ces comités de suivi? Chaque jour, il y a des voitures qui polluent. Chaque jour, il y a des sociétés brassicoles qui polluent. Mais personne ne suit. Donc, ça demeure lettre morte et ces principes demeurent lettre morte. Et vous savez, lorsque la loi n'est pas respectée, elle est comparable à un sac vide qui ne peut se tenir debout. Et qui souffre? C'est nous, population. Voilà pourquoi on a des maladies comme les choléras, les maladies diarrhéiques. On cherche le diable ailleurs. rester dans les pollutions et lorsqu'on ne contrôle pas, les conséquences seront toujours dramatiques.
Voilà, merci beaucoup Omar d'avoir appelé et de contribuer à cette émission et surtout vous poser la question où en est-on avec des comités de suivi pour au fait faire respecter certains principes ou encore des instruments juridiques que nous avons pu ratifier sur le plan international. Merci beaucoup Omar, 081 890 49 69 ou encore le 09 081 890 43 39.
C'est parce que Radio Capine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Nous recevons le professeur Jean-Pierre Béa, qui est expert en environnement. Il est déjà en ligne. Professeur Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, je vous écoute bien.
Voilà, vous venez de suivre là la première série des auditeurs. Vous avez peut-être une réaction à chaud?
Oui, j'admire vivement l'intervention des derniers intervenants là. Et je crois que c'est un monsieur qui est bien outillé en cette matière. Alors, je crois que pour aller plus vite, revenons sur le problème des principes de pollueur-payeur. Alors, si vous regardez très bien toutes les entreprises qui fonctionnent dans ces pays et qui polluent d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir un plan d'environnement bien déterminé. Et je suis sûr que ces industries payent. Mais maintenant, c'est mon problème. Le problème, c'est la gestion de ce qu'ils payent. Ça prend quelle direction? C'est ça la grande difficulté. Moi, je crois que, en un mot, dans notre pays, c'est le problème d'impunité. Allez-y vérifier. Vous êtes en train maintenant, et le monsieur est en train de parler de Tigo et d'autres entreprises. Mais allez-y vérifier. Vous êtes des journalistes. Demandez à ces gens, est-ce qu'ils ne payent pas l'argent relatif à la gestion des déchets ou à la pollution? Ils payent bien. Il y a des factures. Ils peuvent bien contrôler. Mais où part cet argent? C'est ça, c'est le point de départ. Ça, c'est les rôles de l'État qui doit suivre. Il n'y a pas de suivi. Nous pouvons faire autant d'émissions, autant de déclarations, tant qu'il y a l'impunité dans ce pays, rien ne peut marcher. Je crois que j'ai admiré longuement l'intervention des derniers intervenants. C'est vraiment très pertinent. Il faut que l'État, à travers les ministères de l'Environnement, prenne des dispositions et il faut que l'État prenne des dispositions au niveau des suivis et pour arranger ces problèmes de pollution. C'est un problème réel, nous le connaissons tous.
Là, oui, mon point de vue. Oui, professeur, quel est le niveau qu'a atteint aujourd'hui la pollution en RDC?
Ah, je ne vais pas dire le niveau maximal, mais vraiment nous sommes dans un pays où la pollution n'est pas gérée. En fait, la pollution c'est quoi? C'est l'introduction des substances nocives dans l'environnement. Hein? C'est ça la pollution. Et la pollution aussi peut se transformer en nuisance. Quand il y a des bruits, c'est ça la nuisance, qui sont liées aux organoleptiques. Donc, dans notre pays, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de problèmes de pollution, je crois que ça atteint un niveau très élevé. En fait, comme le dernier intervenant a parlé, nous avons le rôle de l'État. L'État a une responsabilité. Et la responsabilité de nous-mêmes, individus. Et donc, il faut que nous soyons informés que, en jetant, par exemple, des eaux usées sur la route, il y a pollution. Ou en jetant des sachets sur la route, il y a pollution. Donc, toutes ces choses-là, il faut que les gens soient informés. Donc, l'information, c'est à travers vos émissions, qui sont très, très bonnes. Mais nous n'avons pas la force, nous, les chercheurs, ou les individus, nous n'avons pas la force contraignante pour dire, par exemple, tel a fait ceci, on les punit. S'il n'y a pas de contraintes, on peut faire n'importe quoi, c'est ça. Les lois existent, mais il faut qu'il y ait des contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire l'applicabilité de ces lois. Donc la pollution dans notre pays, nous vivons avec la pollution. Nous avons trouvé ça normal.
Voilà, alors professeur, si on peut encore aller plus loin, quels sont les secteurs qui polluent plus que les autres? Parce qu'on sait qu'il y a eu un boom minier également, même si c'est timidement, mais il y a quand même aussi un boom pétrolier. Alors, pour ne pas citer d'autres secteurs, mais quel est dans l'ensemble le secteur qui pollue plus que les autres?
Bon, les industries, tout à l'heure, un intervenant parlait des industries brassicoles qui déversent des déchets dans le fleuve. Vous savez, tous ces déchets de production, de bière, ainsi de suite, même, bon, je peux citer la Massafrou qui envoie aussi des déchets de production, de savon, ainsi de suite, dans le fleuve, et ce n'est pas contrôlé. Donc, la plupart des cas, c'est les industries qui polluent, les eaux qui polluent aussi l'air et qui polluent aussi le sol. C'est la plupart des cas. Alors, ces industries n'ont pas... Je peux vous donner un exemple. Je ne fais pas la publicité d'une industrie. Je vous donne l'exemple des grands hôtels. Le grand hôtel a une station d'épuration d'eau. Toutes les eaux usées qui sortent dans les eaux de cuisine, tout ça, sortent dans une station d'épuration d'eau. Et puis, après avoir traité ces eaux sont ramenées dans le fleuve. Mais demandez aux autres industries, qu'est-ce qu'ils font de ces eaux-là? Et qui contrôle? Vous comprenez? C'est des grands problèmes. Alors, si on envoie les gens de l'environnement pour faire les contrôles, ils viennent juste pour demander de l'argent et ils rentrent sans donner les rapports concrets. Le grand problème de notre pays, c'est l'impunité et le respect des lois. Toutes ces lois existent, comme l'a dit notre intervenant. Mais il faut qu'il y ait un suivi. On dirait que les gens sont fatigués et l'environnement est en train de se dégrader.
Oui, mais parlons peut-être du cas de Mwanda que nous utilisons aujourd'hui comme prétexte. C'est vrai, ça appelle aussi les mesures d'application de la loi sur les hydrocarbures.
Oui, mais merci beaucoup. J'ai appris que le Sénat est en train de s'atteler sur ces problèmes. Mais depuis quand Perenco existe? Depuis quand? Depuis plusieurs années. Mais pourquoi maintenant? Le Sénat aussi existe après combien de temps? Mais pourquoi maintenant le Sénat intervient? Mais nous allons voir les résultats. Nous allons voir les résultats. Le grand problème, c'est de ne pas faire la fanfare, faire trop de bruit, mais les résultats sur le terrain. Chaque industrie qui s'installe, industrie pétrolière soit-elle, il doit y avoir le problème d'impact sur l'environnement. Ils se disent, bon voilà, nous traitons les déchets, doivent être évacués comme ça, et puis on doit payer pour améliorer les conditions de vie des gens qui sont aux alentours, autour de dans les environnements. Mais tout cela, si vous vérifiez, si vous allez bien vérifier, facture ou d'autres documents, vous allez voir que beaucoup d'argent sont versés pour les problèmes de l'environnement. Mais malheureusement, suivez un peu, vous êtes des journalistes. Pourquoi vous ne pas suivre l'itinéraire de cet argent, de la dépense jusqu'à l'utilisation? Parce que nous pouvons parler, nous n'avons pas de mesures contraignantes. Nous parlons, nous faisons des discours peut-être en tant qu'scientifiques, nous pouvons vous donner des principes environnementaux formidables, mais suivez, vous êtes des journalistes, faites des investigations. On a payé, c'est par quel niveau, et qui, à la fin, a bénéficié de cet argent?
Oui, professeur, pour aider plus d'un qui est en train de nous suivre dans cette émission. Alors, oui. Aujourd'hui, quel est le mécanisme idéal pour une gestion efficiente dans la dépollution, par exemple, de la cité?
Oui, le mécanisme idéal, moi, je crois que ça, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Moi, je crois qu'il faudrait commencer par la municipalité, c'est-à-dire les bourgmestres des communes. Dans chaque commune, il doit y avoir un service d'environnement. Et d'ailleurs, partout ailleurs, vous allez voir, même dans d'autres pays, c'est le maire qui s'occupe de l'environnement, la gestion de l'eau et de l'électricité et de l'urbanisme dans sa ville. Mais dans notre pays, les maires ne sont pas élus. Ils sont nommés, ils font de n'importe quoi. Et je connais un bourgmestre d'une commune dont j'étais le nom. Quand on lui demande des problèmes, d'environnement, tout ça, il dit, mais vous ne m'avez pas voté. Moi, je crois qu'il faut commencer par là. Ça, c'est un point de départ. Dès que les maires sont élus et qu'ils ont un mandat bien déterminé, nous allons commencer à les juger à partir de ces mandats en appuyant sur les problèmes d'environnement. Donc, on peut vous donner beaucoup d'exemples des recherches scientifiques. Qu'est-ce que nous avons fait sur l'environnement, la pollution? Mais ça ne dira rien, il faut que l'État intervienne, il faut que les élus prennent des dispositions pour le problème d'environnement. Tout doit commencer par la mairie, par les municipalités. Ça, c'est mon point de vue.
Merci beaucoup, professeur. On va encore revenir à vous, le temps d'ouvrir cette deuxième série des auditeurs. Restez en ligne, professeur. On va accorder la parole à Théodore, qui est à Mbujimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Théodore.
Oui, moi j'apprécie le travail du Sénat à chaque fois. Ils font beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de dossiers sur lesquels le gouvernement ne veille pas surtout et ne donne pas de réponses. Et ce qui pousse des fois aux interpellations des ministres concernés. Si aujourd'hui à Mwanda, les 80 millions de dollars seront pour la gestion à la dépollution, pour moi je voudrais savoir comment se fera la gestion de cet argent et quel service sera chargé pour la transparence. Parce qu'il y a des pays développés qui parlent chaque fois de bonne gouvernance et qu'on sort. Mais c'est le moment. On doit gérer bien l'argent. Pour ce qui nous concerne ici à Mbujimayi, nous avons un problème ici avec notre prison centrale. La prison centrale est constituée juste au centre de la ville. Mais si vous passez devant, vous trouvez un canal, il y a des déchets, il y a des pollutions, il y a des eaux vertes qui sont de la prison. Et si vous passez par là, ce sont des odeurs insupportables. Et c'est là, c'est à 100 mètres du gouvernorat, à 50 mètres de la commune, et à 100 mètres du gouvernement provincial. Alors tout ça, ça la dérange. C'est ainsi. J'ajoute encore pour dire que nous avons aussi les problèmes de la rivière Lubulagi, qui a été à l'époque polluée par les déchets de l'Aniba. Et aujourd'hui, vous savez, avec la souffrance des productions qui souffrent à l'Aniba, ce sont les maisons construites à bord de cette rivière, sans toilettes domestiques, voire même les toilettes publiques. Et c'est là, en aval tout comme en amont, ça cause des problèmes. Et lors de la saison des pluies, tous ces déchets descendent dans cette rivière. Ce sont des maladies qui suivent. Cette eau est utilisée pour la lessive et les femmes se baignent chaque jour qui passe. Comme aujourd'hui, par exemple, l'eau ne coule pas au robinet. Mais si vous allez à la rivière, vous trouverez plein de femmes en train de se baigner. Alors je propose quoi? Je propose que les services des cadastres et les services de l'hygiène doivent étudier tout lotissement pour éviter les pires à répétition.
Merci beaucoup, Théodore. Madeleine, vous êtes à Kipushi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Madeleine.
Alors, moi, je vais revenir sur la pollution au Katanga. Et là, je vous dis que c'est scandaleux. Ce qui est grave, c'est que c'est au vu et au su de toutes les autorités provinciales et même au niveau national. Nous savons tous, ils savent tous que plusieurs entreprises minières déversent leurs rejets dans les cours d'eau, dans les rivières, et nous le savons, toutes ces rivières, y a des ménages qui utilisent ces eaux des rivières, des cours d'eau du Katanga. En dehors de ça, à Lubumbashi par exemple, il y a deux entreprises à La Roachi, dont j'étais les noms. Ces entreprises-là, La Roachi, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, c'est une commune habitée par des milliers de personnes. Et ces entreprises ont des carrières. Ces carrières sur place font des activités. Elles polluent l'environnement. Il y a des jours, il y a des activités qu'ils font. Ils font une activité qu'on appelle minage. Hein, pour ceux qui sont dans les mines, ils connaissent cette activité. En fait, ils détruisent les roches. Ils font sauter les roches à l'aide des explosifs. Mais vous savez, à La Roche, quand ils font cette opération, ces bouts de roches vont jusque même dans les parcelles des pauvres habitants de La Roche. Et il y a même des dégâts tous les jours. Il y a des dégâts tous les jours. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a même déjà eu des morts.
Mais Madeleine,
les autorités, ils le savent.
Oui, Madeleine, mais est-ce que le principe du pollueur-payeur est-il respecté là-bas à Kipushi?
Ça, on se demande si ce principe est respecté. On sait que partout dans le monde, les pollueurs payent de leur pollution. Mais nous, on se demande, il y a des entreprises ici au Katanga. Est-ce qu'elles polluent l'environnement? Est-ce qu'elles payent des fonds? Ces frais sont affectés à quoi? C'est ça la grande question.
Parce que visiblement, il n'y a pas d'actions sociales qui sont réalisées par ces entreprises-là, ou encore par le gouvernorat, le gouverneur de province, par exemple, par rapport à ces taxes payées.
Mais moi, je dirais que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Cette entreprise crée plutôt des malades. Il y a beaucoup de malades, des gens. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des femmes qui ont des malformations congénitales. Pourquoi? Puisque elles habitent autour des carrières minières, il y a des centres médicaux, c'est prouvé, il y a déjà eu des enquêtes, des rapports, plusieurs rapports qui dénoncent cela.
Voilà, les gens ont préféré garder silence par rapport à cette question, qui n'attendent qu'encore qu'il y ait des dégâts énormes. Merci beaucoup Madame Madeleine d'avoir appelé des Kipushi. Nous revenons à Kinshasa pour retrouver Dadi qui est avec nous. Dadi, bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous avez la parole Dadi.
Oui, merci pour la question. Je pense que Omar et notre invité principal ont presque tout dit. Moi, je vais plus articuler mon argumentation sur la...
Oui, si vous pouvez parler fort un peu, Dadi.
Le problème de la gestion que le Sénat a...
Recommande, oui.
...a demandé à ce qu'on puisse loger ça
à la Banque centrale.
Alors moi, je pense que la province du Bas-Congo a quand même un gouvernement provincial... comme vous le savez, si jamais ce fonds est géré au niveau national, il est impossible que... Non, ça ne sera pas possible que ce fonds-là puisse, dans son intégralité, puisse être bénéficiaire à la population de la cité du monde. Alors, deuxièmement, je peux demander à nos autorités qu'à chaque fois qu'ils octroient, qu'ils autorisent à des sociétés qui polluent l'environnement, à chaque fois qu'on leur donne des titres pour aller exploiter dans un milieu, il faut aussi
faire le suivi.
Assez qu'on puisse respecter les principes qu'on a pu évoquer.
Les pollueurs-payeurs. Merci beaucoup Dadi d'avoir appelé et aussi d'avoir appelé qu'il faudrait à un certain niveau, au niveau des autorités, qu'on puisse renforcer un peu le contrôle, les suivis et surtout veiller à ce que le pollueur, payeur, ces principes-là soient respectés. Théophile est à Kananga. Bonjour Théophile.
Bonjour Pierre, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole Théophile.
Oui, merci beaucoup. Je crois que mon compatriote Omar, comme vient de le dire Dadi, Omar a dit presque, mais moi j'ai quelque chose. On parle de pollution par des industries, mais on oublie la pollution des ravins, la mauvaise gestion du cadastre de nos villes, de nos cités, qui provoque les érosions. Les érosions, lorsque vous l'examinez bien, il y a le coulement des sols dans nos rivières, nos ruisseaux qui s'abîment lorsque nous cherchons l'eau à consommer. Nous sommes en train de consommer l'eau polluée. Et j'ajoute encore, il y a le cas de sachets. Vous vous rappellerez qu'il y a une loi qui a été édictée par notre ministère de l'Environnement,
oui.
Je me rappelle bien, qui interdisait la production de sachets non équitables.
Oui.
Mais ici, chez nous, nous vivons de sachets partout et on ne peut pas en cultiver dans nos parcelles parce que lorsque vous mettez des graines, ça ne produit pas parce que ces graines vont se reposer sur les sachets qui peuvent en permettre la germination. Et je dis que dans l'ensemble, le problème dans notre pays, c'est le problème d'hommes. Ce n'est pas un problème de texte, parce que les hommes, s'ils ne sont pas patriotes, s'ils n'ont pas l'amour pour la patrie, ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas contrôler. Parce qu'on peut les envoyer aujourd'hui pour contrôler comme les 86 millions de Perenco là-bas. Ceux qui auront là sont toujours des pauvres comme moi, qui chercheront à s'enrichir. Donc c'est un problème d'hommes et notre pays. Nous avons l'exemple de notre RDC. Lorsque un groupe de militaires, d'officiers, un groupe de responsables au niveau de la présidence et de la primature ont pris conscience que notre pays est en péril, ils se sont donnés, nous avons gagné la guerre. Alors, c'est comme pour l'environnement aussi, s'il y a des hommes patriotes qui ont l'amour de la patrie, ils peuvent permettre à notre population de bien respirer l'air pur et les cités salubres. Voilà ma conclusion.
Merci beaucoup Théophile d'avoir appelé des Kananga. Merci également à vous tous qui souhaitez participer à cette émission. Nous accueillons donc Trésor qui est à Likasi. Trésor, bonjour.
Bonjour Radio Capil, bonjour à l'invité.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, je pense que à propos de ce sujet, le principe du pollueur payeur est respecté, puisque je crois partout sur l'étendue de la République, les services de l'État sont présents. De ce fait, ce principe doit être respecté puisqu'ils doivent payer nécessairement les taxes. Alors, je reviens. Aujourd'hui, il faut que l'argent soit versé à la BC, à la Banque Centrale. C'est pas mal. Alors, depuis que cette entreprise a commencé à exploiter et à polluer l'environnement, combien est-ce que l'entreprise a versé? Et qu'est-ce qu'on a avec cette somme-là? Aujourd'hui, la BCE va prendre le relève, plutôt le Sénat. C'est ce qui prouve que la BCE pourra faire quelque chose. Et combien d'entreprises ont déjà fait des économies à la BCE pour un projet? Et quelle a été la réalisation? Je pense que tout, c'est un problème d'impunité qui règne dans le pays. Puisque ceux qui ont détourné l'argent de l'entreprise à contribuer,
Combien de fois ont-ils été poursuivis? Et aujourd'hui, le Sénat prend le relève. On va encore charger une personne. La personne en question va détourner. Qu'est-ce qu'on fera à cette personne?
Donc, voilà, vous craignez par rapport aux expériences du passé à Trésor que cet argent puisse être détourné. Voilà, donc, et puis que nous assistions encore à des cas d'impunité, comme l'a dit notre invité tout à l'heure. Le vrai problème, c'est l'impunité des gens qui mettent la main dans la caisse de l'État et ils ne sont pas inquiétés. Et ils continueront à le faire parce que, effectivement, ces entreprises-là, selon le dire de notre invité tout à l'heure, payent les taxes de pollution. Mais voilà, mais l'argent ne va où? Donc c'est la question que nous nous posons. Merci beaucoup, Trésor, d'avoir appelé Delicacy. Nous prenons Josias qui est à Guémena. Bonjour, Josias.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Café et surtout à Omar qui nous suit.
Voilà, vous avez la parole, Josias.
Merci, JR. J'ai une petite intervention et une préoccupation. Et cela précède un peu d'une question. Et surtout dans notre milieu ici à Guémena, à l'Équateur, est-ce qu'il existe vraiment un ministère qu'on appelle de l'environnement? Nous ici, nous sommes en train de voir chaque jour les équipes de l'environnement qui passent, et on se pose des questions. Quel est vraiment le service qu'est en train de rendre les services de l'environnement ici à Guémena? Parce que nous voyons, et surtout ici à Guémena, il y a des saletés qui sont partout, par-ci, par-là, et surtout dans des grands marchés. Et là, il y a une forte fréquentation des gens. Et il y a un service qu'on appelle le service de l'environnement ici à Guémena. Et c'est cette question qui se pose. Et maintenant, là, comme nous, aujourd'hui, là, nous attendons déjà la saison la saison sèche, tiens, je vous dirais, vous allez voir combien les gens sont en train de polluer la nature. Comment? À travers les incendies par-ci, par-là, et maintenant, à la recherche de quoi? Peut-être de là, et le service de l'environnement est là, qui est en train de voir la nature se dégrader, la pollution, les rivières, dites-le-moi. Aujourd'hui, il y a les techniques là pour cultiver, et pour beaucoup plus avoir les rendements des cultures qu'on appelle des riz ici, dans notre territoire. Il faut maintenant cultiver les champs là où se trouvent les sources, là où se trouvent les sources. Donc, on fait la culture dans les sources d'eau. Et il faut voir combien maintenant les sources d'eau sont en train de maintenant de tailler. Et pendant qu'il y a un service de l'environnement ici à Guémena, et nous demandons à notre gouvernement et à travers son service et ministère de l'environnement de veiller un peu à ça. Qu'ils ne prennent pas l'argent seulement pour leur poche, mais pour la nature. Hein? Parce qu'ici, on peut toutefois dire que non, pour parler de Congo, on voit quand même ici dans notre province de l'Équateur qui garde encore la nature. C'est faux et archifaux. Si vous prenez ici notre route, ici Guémena vers Zongo, mais ce serait devenu une savane. Donc la nature est partie. Vous allez voir, les gens sont en train de brûler la nature comme ça et les retomber c'est sur l'homme lui-même. Mm-hmm. Ensuite, il y a quoi? À la pauvreté. Donc l'homme est là, il est en train de faire quoi? À la poursuite de quoi vivre. Vous êtes avec moi, j'ai.
Oui, oui.
Je chute déjà, excusez-moi.
Oui, allez-y, rapidement.
À la recherche de quoi vivre. Mais comment il doit vivre? Il doit descendre toute une étendue de la terre pour chercher néanmoins des rats, pour chercher de quoi vivre. Or, il est en train de contribuer à la dégradation de la nature. Or, il y a un service de l'environnement qui doit protéger tout ça. Et tout ça renvoie sur le gouvernement. Il faut maintenant comment nourrir, comment faire vivre, comment rehausser la vie du peuple pour ne pas dégrader la nature. Voilà un peu ma petite préoccupation par rapport à ça. Il faut
voilà, donc là vous, oui, vous relancez également le débat sur l'ambiguïté de la gestion de pollution au niveau et des grands pollueurs et des petits pollueurs. Vous avez évoqué en tout cas tous les niveaux. La pollution se fait pratiquement à tous les niveaux. Voilà. Nous avons en ligne notre invité, professeur Jean-Pierre Béat, expert en environnement. Vous êtes avec nous?
Allô?
Oui, professeur, vous avez suivi la deuxième série des auditeurs.
Oui, j'ai suivi la deuxième série, c'est très intéressant.
Voilà, comment vous réagissez? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est comme si on assiste à une certaine confusion, et l'imbroglio total entre les grands pollueurs et les petits pollueurs.
Oui, bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tous ces débats. Alors, pour revenir un peu en arrière, le principe des pollueurs-payeurs existe. Est-ce qu'il est-il appliqué au pays ou non? Mais pour vérifier là, c'est pour ça que moi je vous donne un petit devoir en tant que journaliste. Est-ce que vous pouvez vérifier si certaines entreprises que nous considérons comme de pollueurs payent les taxes sur la pollution. Alors vous devez, pouvez aussi faire des investigations et nous dire, tirer des conclusions. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesures contraignantes. Nous avons dit tout à l'heure que les grands prix, quelqu'un vient de dire tout à l'heure que c'est le problème d'hommes. En fait, j'ajoute que c'est le problème d'impunité dans ces pays. Personne n'a les soucis de faire quelque chose de mieux. Donc, il y a ces grands problèmes-là. Donc, il faudrait arrêter l'impunité. Pour arrêter l'impunité, il faut que l'État se montre à mesure, en prenant se montre à la hauteur en prenant des mesures contraignantes. Le principe des pollueurs-payeurs existe dans toutes les entreprises. Allez vérifier. Je vous donne un petit devoir. Vérifiez, est-ce que les entreprises payent l'argent, mais où part cet argent?
Oui,
aujourd'hui, le Sénat, excusez-moi, le Sénat parle de loger cet argent dans la banque. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi on doit loger l'argent dans la banque alors qu'il y a des gouvernements provinciaux qui peuvent gérer ces problèmes, régler ces problèmes
localement, oui.
Vous voyez, c'est des grands problèmes. Donc nous pouvons dire en résumé, c'est le problème d'impunité, d'irresponsabilité de l'État. Les lois existent et tout cela existe, mais le problème, c'est l'impunité. Donc on ne peut pas aller tourner, aller très loin.
Oui.
Si aujourd'hui l'État prend les dispositions, quelqu'un a donné l'exemple de l'armée. Quand les gens ont pris conscience de ces problèmes, et nous voilà, nous avons gagné la guerre. Mais si nous prenons aussi conscience des problèmes d'environnement, je crois qu'on ira très loin. Il y a beaucoup d'argent dans le ministère de l'Environnement. Allez-y voir, faites les investigations. Il y a tel organisme, tel ONG qui donne l'argent. Moi-même, j'ai déjà participé à beaucoup de séminaires sur la pollution, sur le changement climatique. Il y a des résolutions. Tout ça, ça part dans quelle direction? Vous comprenez? Donc, il faudrait à un moment donné qu'on essaye de remettre en marche notre ministère de l'Environnement qui est en charge des problèmes de pollution. Moi, je suis sûr que ce principe de pollueur-payeur existe.
Voilà. Les principes existent,
oui. Mais le problème, c'est
de
voir à quel niveau s'arrête l'argent payé comme frais de pollution.
Voilà. Alors, l'idéal, professeur, pour certains observateurs, aurait été qu'on examine au niveau du Sénat, donc, toute une fois pour toutes, donc, tous les cas de pollution, parce qu'il ne fallait pas seulement restreindre le débat au niveau de Péréco, parce qu'au niveau du Katanga, il y a pas mal d'industriels qui travaillent dans le secteur minier. Et si nous allons dans le Bandundu avec l'exploitation et tant d'autres entreprises qui font aussi l'objet de ce débat, et pourquoi ne pas faire le débat une fois pour toutes?
Excusez-moi de vous dire que ce n'est pas mon problème, le Sénat. Vous comprenez, le Sénat se trouve enfermé dans des caracasses politiques où ils ne sont pas ouverts ailleurs. Toutes ces études ont été faites parmi les étudiants qui pollutent. Moi, j'ai dirigé beaucoup d'études sur la pollution. Est-ce que le Sénat est venu me voir pour me dire, monsieur le professeur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont dans leur carcan politique pour raconter les histoires. Il y a des études qui ont été faites sur Katanga, des études qui ont été faites dans beaucoup de régions, mais ces études-là,
oui,
des recherches dans nos universités, il y a des mémoires, il y a des travaux de fin de cycle, il y a des thèses de doctorat qui sont faites sur ces problèmes-là. Mais personne ne s'intéresse. Demandez aux gens de Sénat, là, est-ce qu'ils ont une commission qui s'occupe des recherches sur ce domaine? Il n'y en a pas, ça, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est parce qu'il y a l'argent. On a parlé de l'argent, 80, je ne sais pas combien.
88 millions.
Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent. Mais voir en principe quels sont les types de pollution, quelles sont les recherches qui ont été faites. Il y a des recherches qui sont faites dans nos universités. Moi, j'ai des recherches. Un jour, quand je viendrai là-bas, je vous amènerai des publications. Mais les étudiants les font pour avoir les diplômes. Mais qu'est-ce que l'État profite? Rien, rien du tout. Sinon, nous faire des bruits. Moi, je crois que le Sénat ne fait aucun travail d'intéressant. Moi, je crois qu'à un certain niveau, il faut confier ces problèmes aux ONG. Locales qui ont peut-être l'ambition de faire quelque chose, mais au niveau de l'État, bon, je pense que espérons qu'il y aurait des changements quand même.
Merci beaucoup, professeur. Restez encore en ligne. Nous prenons Michel qui est à Matadi et Dr Richard à Kinshasa. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Merci, le journaliste.
Voilà, Michel. Oui, allez-y.
Oui, j'allais juste commenter que j'ai entendu, il y a des personnes qui ont intervenu. Et qui ont salué. Mais moi, je voudrais dire que notre Sénat n'est pas le ciel. Parce que je voudrais vous donner un exemple. Oui, bien sûr, l'argent doit être déposé en banque, mais pour quelle finalité? c'est pour embellir les banques ou bien pour servir à la population d'abord qui est victime de cette spoliation.
Oui, on a dit bien, on a bien dit, Michel, que 88 millions de dollars doivent être transférés à la banque centrale pour une gestion efficiente dans la dépollution de la cité de Moanda, mais aussi dans les actions sociales en faveur des populations.
Oui, on a des belles paroles. Ce sont des chapelets de bonnes intentions. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, j'étais à Koulmongo. Il y a la rivière Koulou qui est juste derrière l'usine de la compagnie sucrière. Vous savez, il y a une fois après la production, la sucrière avait injecté dans ses eaux une certaine liquide qui avait tué des poissons. Et tout le monde dans cette cité avait mis les décriers parce que l'eau était polluée. Vous savez ce qui s'est passé? Les autorités sont venues. Ils ont vu les catastrophes. Mais après, il y a eu partage des sacs de sucre et même pas de blâme. Et la situation s'est arrêtée là. C'est ça le Congo. Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne la pollution, les gouvernements angolais accordent chaque mois, 1 milliard de dollars dans la province de Cabinda. Et allez comparer le Moanda. Aujourd'hui, si vous parlez de Moanda, ce qui peut vous attirer, c'est seulement l'océan, c'est tout. Il n'y a même pas de belles constructions. Mais cet argent devait servir à quoi? Moi, je crois, aujourd'hui, nous ne pouvons même pas comparer la province de Cabinda et la province du Bas-Congo. Il y a la population qui est là. C'est une population qui vous souffre. Mais ils ont les atouts pour se développer. Mais malheureusement, notre gouvernement ne nous donne pas la chance. Je me limite par là pour aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup, Michel. Ben, alors, Michel, avant de nous quitter, restez un peu en ligne, Michel. Vous êtes avec nous? Michel, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une idée, c'est vrai, il y a Perenco aujourd'hui, à part Perenco, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent, d'autres industriels qui fonctionnent à ce niveau, qui sont aussi concernés par ce cas de pollution?
Ah, oui, bien sûr, parce que dans l'environnement, il y a des prédécesseurs qui sont passés par là. Ils ont dit, nous avons des activités qui polluent.
Parce que si vous passez sur la route, par exemple, la nationale numéro 2, vous allez vous rendre compte, la nationale numéro 1, pardon, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la cimenterie, sur la route, là, c'est une pollution terrible.
Ah, merci, parce que vous êtes des mêmes côtés que moi, donc vous
au niveau de la locale.
C'est ça. Vous allez voir, les gens sont tout autour de la poussière. Mais c'est au vieux aussi de tous les hôtels. Ils passent par là, ils les voient. Et lorsqu'ils voient, ils voient les fumées qui sortent. Parfois, il y a des couleurs des maisons qui ont été laissées par des Belges. Ils les voient. C'est une fumée qui pollue. Mais ils ne disent rien. Et qu'est-ce que nous allons faire?
Merci beaucoup, Michel. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Et bonne arrivée.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tout le monde. Bonjour au professeur. Félicitations à tous ceux qui ont parlé. Maintenant, c'est mon tour. Alors. En cette matière de pollution, c'est bien de prendre des beaux textes, de les publier, etc. Vous vous souviendrez, M. J.R., je vous avais adressé une lettre en copie que j'avais adressée à l'Assemblée qui était ici en matière de l'environnement en RDC. Le thème, c'était les enjeux environnementaux. Dans cette lettre, à part tout ce que les amis ont dénoncé, j'avais dénoncé la présence de les termites sur les toitures. J'avais dénoncé la pollution par le mercure, c'est-à-dire les savons contenant le mercure et les huiles contenant le mercure que les femmes utilisent s'éliminent par les urines. Et ça pollue l'environnement. Aujourd'hui, on a des hypertendus. J'avais dénoncé la qualité des tuyaux. J'avais dit, qui a vérifié le taux du plomb dans nos tuyaux du réseau de distribution d'eau? Et voilà, la série continue. J'avais dénoncé la non-existence des stations d'épuration des eaux usées des déchets solides. Par exemple, la station de Kaouka, je suis allé revoir ça il y a 2 semaines. On a pris ce laboratoire qui dénaturait les eaux usées de Kaouka et d'autres matières. On a vendu, j'ai même vu une église chrétienne là-dessus. C'est comme s'ils ne savent pas que dans Deutéronome 23, verset, je ne sais pas, 6, Dieu est contre la pollution de l'environnement. Félicitations à celui qui a parlé de la pollution par les antennes des sociétés
de télécommunications.
Ça tue à petit feu. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Richard. Et nous terminons cette série des auditeurs avec Séraphin qui est à Lubumbashi. Séraphin, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Bonjour, Radio Capi.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Ah oui, moi je voulais dire que peut-être que quand souvent chez nous on parle des chiffres, les gens commencent à croire que ces chiffres-là sont très intéressants. Peut-être même les 80 millions ne pourront pas faire face à la dépollution, à ce que nous devons utiliser pour la dépollution. Le fait est que moi je crois par rapport à la gestion, tellement qu'on n'est pas à mesure d'estimer au préalable, il fallait qu'il y ait des études sérieuses, que ces études-là nous disent combien qu'il faut réellement, et des études des experts, et des bureaux d'études des experts que nous pouvons sélectionner pour savoir un peu combien cette dépollution peut nous coûter et combien la République doit demander à l'entreprise. Et même pas, je pense que donner des prises forfaitaires, je pense que ça ne serait pas une bonne chose.
Oui, il y a même un auditeur qui a évoqué des cas qui sont similaires au niveau de Lubumbashi. Séraphin, est-ce que vous pouvez encore revenir sur ça? Parce que nous savons qu'il y a eu à un certain moment un boom minier, il y a beaucoup d'industriels qui travaillent dans les secteurs. Est-ce qu'on peut se faire une idée par rapport à ça aussi, la situation chez vous?
Oui, à Lubumbashi, il y a beaucoup de rivières qui sont polluées juste par les entreprises minières. Le fait, c'est d'avoir un plan de gestion environnementale au niveau national et qu'on sache un peu par rapport à ces entreprises comment ils peuvent intervenir pour dépolluer ou payer la dépollution. Et là, c'est au niveau de l'État que les choses doivent s'organiser, et parce que il y a les rivières, les poissons qui en souffrent, il y a la destruction de l'écosystème, et là c'est clair qu'il faut que l'État prenne des dispositions pour mettre en place un plan environnemental spécifique pour chaque région, pour chaque activité.
Oui, mais à votre niveau, quand vous observez votre entourage, Séraphin, est-ce que vous pensez que c'est vrai, parce qu'il existe un ministère de l'Environnement dans notre pays, est-ce que vous êtes rassuré qu'effectivement il y a un plan d'environnement pour une gestion, une meilleure gestion de la dépollution de nos cités?
En tout cas, on ne le sent pas, et c'est là, et nous avons toujours pensé qu'il doit y avoir un partenariat public-privé, parce que maintenant, actuellement, les experts sont un peu en dehors du système étatique, et que quand il y a un partenariat public-privé, les experts peuvent estimer réellement et estimer ce qu'il faut faire pendant les mesures à prendre, les mesures environnementales à prendre pour que l'écosystème soit bien géré dans la République.
Merci beaucoup d'avoir appelé Séraphin de Lubumbashi, 081 890 43 39, et également le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Encore merci de votre fidélité à Radio Capi, et vous qui nous avez rejoints depuis le début de cette émission, nous vous disons merci. Mais voilà, on va conclure avec notre invité, professeur Jean-Pierre Beya. Vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, d'abord une réaction par rapport à cette dernière série des auditeurs, et puis on va conclure avec vous.
Oui, bon, vous savez, je suis très content du fait que les gens ont compris que l'environnement, c'est un cadre de vie. Et ils se sont beaucoup intéressés. Les problèmes de pollution, on ne se cache pas la figure, c'est un problème réel dans notre pays. Il n'y a aucune politique réelle, si jamais, enfin peut-être sur le papier, il n'y a aucune politique réelle palpable concernant la gestion de l'environnement et la gestion de la pollution d'une manière générale. il y a les problèmes aussi des lois et parfois les problèmes des normes. Par exemple, l'environnement de Katanga n'est pas le même que l'environnement de Kinshasa ni l'environnement de Bukavu. Donc il doit y avoir des normes réelles sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air et sur la qualité des sols dans chaque province. Et ces normes n'existent pas. Si jamais, bon, peut-être nous utilisons des normes étrangères. Donc, moi je reviens au problème de pollueur-payeur. Ce principe doit être appliqué avec beaucoup de rigueur. Alors, maintenant, faudrait-il, à qui appartient la faute? L'État ou aux entreprises qui sont sur notre sol et qui ne payent pas leur pollution? Mais si réellement la faute appartient aux entreprises, on doit le fermer. On doit le fermer carrément. Parce que chaque entreprise, comme les entreprises industrielles pétrolières, ils doivent avoir le plan d'impact ou la politique d'impact de l'environnement, sur l'environnement. Donc, il faut que ces choses-là doivent être suivies. Ça, c'est mon point de vue. Nous pouvons parler du matin au soir. Il n'y aura pas de solution si l'État n'arrive pas à prendre ses responsabilités, si le ministère de l'Environnement, qui a en charge le problème de l'environnement et de la pollution, ne prenne ses responsabilités. Mmh. Donc ça, c'est le vrai problème. Il faut que les principes des pollueurs et payeurs soient appliqués. Et maintenant, on perçoit l'argent. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Il faut qu'il y ait un plan clair et qui fait voir qu'il y a tel problème qui se pose, il faut qu'on résolve ce problème-là. Donc c'est pour dire en bref que je suis content, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, que les gens s'intéressent aux problèmes de l'environnement. Nous avons beaucoup de recherches que nous avons faites ici à l'université sur l'environnement dans les différents pays. Est-ce que le Sénat s'intéresse? Est-ce que le Parlement s'intéresse à ces recherches-là? Donc il faudrait qu'il y ait collaboration. Et j'ai parlé à un moment donné, il faudrait que nous élisons nos maires, nos bourgmestres.
Oui, qui doit prendre en charge ces problèmes-là.
Qui sont responsables au départ. Ce sont les gens qui sont proches de la population. Aujourd'hui, les élections... Ouais, j'ai compris pourquoi les élections, l'élection de maire ou de communal traînent. Mais c'est ça le problème. Personne n'est responsable de personne parce que vous allez demander à un bourgmestre de dire que vous ne pouvez pas élu. Parce que tout doit commencer par la municipalité, les quartiers, les avenues, la commune, et on monte jusque-là.
Voilà, merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Béat. Vous êtes expert à l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.